Je crois qu'avec cette louange que nous venons d'avoir, nous nous sommes réchauffés. Aidez-moi et je vais vous aider aussi. Aidons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons ce matin dans 1 Samuel 7, 7 à 9. 1 Samuel 7, 7 à 9. 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 au verset 9. Nous continuons avec Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 au verset 9, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Seigneur, merci. Les cris qui délivrent les autres aujourd'hui, par quel chemin passent-ils? Oui, Seigneur. Les hommes sont contents lorsque quelqu'un au Dieu puisé du milieu d'eux peut poser un acte et qui soit à l'avantage de tout le monde. Mais le parcours pris par ces cris et par l'homme porteur de ces cris, Seigneur, ça tout le monde ignore. Mais il n'y a que toi, ô Dieu, qui peux travailler un homme dans les coulisses et le rendre utile devant les autres. Ce matin, Seigneur, nous sommes présentés devant toi dans les coulisses, afin que tu nous rendes utile. Utile pour notre société, utile pour nos familles, utile pour nos entreprises, utile pour ton œuvre, ô Dieu. Ainsi, nous avons besoin d'aller dans le sens, ô Dieu, du processus que tu as mis en place pour forger nos vies et forger nos âmes. Car tu as un plan, un projet pour cette nation et pour nos vies ici-bas. Bénis ta parole ce matin, qu'elle trouve le chemin de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Voulez-vous accueillir la parole de Dieu par des applaudissements? Ce n'est pas une habitude, mais accueillons la parole de Dieu convenablement. C'est la parole qui donne la vie, et nous vivons par elle. Seigneur, merci. Jésus, merci. Nous sommes en train d'analyser depuis un certain temps trois vérités fondamentales autour de la puissance du cri de l'adopté. Et nous sommes à notre deuxième vérité fondamentale que nous avions présentée de la manière suivante. C'est que tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Nous avions, dans cet enseignement sur Ebenezer, touché un aspect des expériences qui accompagnent les saluts de tout enfant de Dieu. Et c'est là, par le Saint-Esprit, que nous avons pu entamer cette expérience que nous avions, qui s'appelle l'adoption. Et c'est là que nous sommes en train de découvrir beaucoup de merveilles. La Bible est extraordinaire. La Bible est formidable. Et c'est là que nous découvrons ce qui est un adopté et comment doit être le chemin d'un adopté pour arriver au stade final de crier pour la délivrance des autres. Et c'est là que nous avions ressenti cette vérité pour dire que tout adopté est au départ un porteur voilé. Il est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Et le dimanche passé, nous avions introduit notre message à travers cette question. À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel l'adopté, puisqu'il est question de Samuel ici. À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel l'adopté porteur des solutions aux problèmes d'Israël? À quel moment? Et c'est là que Jérémie nous a aidés en nous fournissant cette réponse extraordinaire dans Jérémie 1, le verset 5. Là où Jérémie dit, là où Dieu parle à Jérémie, et il lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, c'est-à-dire avant ta naissance, moi je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi mon porte-parole. Et c'est là que nous avons compris que Samuel n'est pas devenu adopté au fil des années. Il n'est pas devenu porteur de solutions, au fil des années. Mais il a déjà été avant même sa naissance. C'est pourquoi nous avons dit que tel que nous nous trouvons ici, il y a des gens dont l'avenir, les plans de leur vie a déjà été décidé depuis le ciel qu'ils joueront ce rôle-là. Qu'ils rencontrent des pots de bananes sur la route, qu'ils rencontrent des bâtons dans les roues, c'est inutile. Parce que le plan a déjà été décidé d'en haut. Le plan a déjà été validé d'en haut. Et ils sont sur le chemin de l'accomplissement et de l'établissement de ce que Dieu a décidé pour eux. Et l'autre réponse que nous avions est fait ressortir toujours de Jérémie, le prophète, c'est que Samuel était déjà, avant sa naissance, porteur de solutions pour Israël. Mais cependant, la puissance de son cri, puisque nous parlons de la puissance du cri de l'adopté, cas de Samuel, Samuel était déjà avant sa naissance porteur de solutions pour Israël. Cependant, la puissance de son cri dépendait de l'œuvre de la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui ne soit pas l'œuvre de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout ce que nous faisons n'est que grâce. Tout ce que nous réalisons n'est que grâce. Donc, cependant, la puissance de son cri, le cri qui a délivré son peuple, la puissance de son cri dépendait de l'œuvre de la grâce de Dieu et du processus de maturation qui transforme un adopté enfant à un adopté mature. La grâce était là, c'est vrai, mais il devait aussi être soumis à un processus de maturation. Un processus de maturation qui devait transformer cet adopté enfant à un adopté mature. Et c'est là que la Bible est extraordinaire. La Bible dit que dans Romains, que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et c'est par ce même esprit finalement, l'adoption, qui a fait de nous les enfants de Dieu. C'est par ce même esprit que nous sommes devenus héritiers de Dieu. Et la Bible va plus loin pour dire que nous sommes aussi co-héritiers du Christ. L'adoption fait de nous des héritiers de Dieu. Et quand vous allez dans Galates, l'apôtre Paul donne une précision encore détail. Les choses ne s'arrêtent pas au moment où nous sommes héritiers. Il ajoute quelque chose, il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quelle est la valeur du cri d'un esclave? Il peut crier, mais son cri n'aura pas d'efficacité comparativement au cri du maître. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique maître de toutes choses. Donc, le processus de maturation est utile pour tout adopté. Le processus de maturation est très très important pour tout enfant de Dieu, né de nouveau, adopté dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de leadership efficace sans ce processus de maturation. Il n'y a pas non plus de responsabilité pour un enfant. Dieu appelle Jérémie et Jérémie dit, « Oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. » Parce qu'il savait que Dieu n'envoie pas des enfants. C'est pourquoi Dieu va lui dire, « Ne dis pas que tu es un enfant parce que je n'envoie pas des enfants. » Vous comprenez ça? Donc, il nous est avantagé d'entamer ce processus de maturation. La grâce, elle est là. Mais nous devons grandir. Nous devons croître. Nous devons nous déployer, nous développer. Nous devons faire des progrès. Nous ne devons pas rester chaque année les mêmes. 15 ans, dira de la foi, vous êtes toujours à la case de départ. Et là, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, la puissance de son cri dépendait de l'œuvre de la grâce de Dieu et du processus de maturation qui transforme un adopté enfant à un adopté mature. Et ce matin, Samuel va nous apprendre ce processus au travers de ce que j'ai pu représenter sur une pyramide comme étant les étapes essentielles dans ce processus de maturation. Samuel enseigne ce matin les enfants de Dieu, c'est vrai, adoptés dans la maison de Dieu, mais ce processus n'est pas seulement
pour ceux qui sont nés de nouveau dans la foi. Mais ce processus touche tous les aspects de la vie humaine. Ce processus est utile pour les étudiants. Ce processus est utile pour les hommes et les femmes d'affaires. Ce processus, cette pyramide est utile pour tous les secteurs d'activité. Vous êtes travailleur à n'importe quel domaine. Ce processus est utile. Ce processus de maturation décidé par l'Éternel, le brasseur de vie par excellence, a conduit Samuel à adopter à travers les étapes suivantes, représentées sous forme de pyramide, si la technique ne peut nous présenter cette image. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est au travers de cette pyramide que finalement Samuel va se déployer pour atteindre le sommet. Ce chemin, ce processus qui commence par servir Dieu tout en portant les fautes, mais qui se termine par l'appel ou don reconnu par tous. Tout le monde vise le sommet. Aussitôt qu'on a commencé la marche chrétienne, qu'on a exhorté dans une cellule ou deux ou trois fois, et on met la pression qu'on reconnaisse mon ministère, qu'on reconnaisse mon don, qu'on reconnaisse mon talent. J'ai trouvé extraordinaire ce processus, lisez 1 Samuel à partir du verset 2 jusqu'au chapitre 3 et même le suivant. Vous pouvez prendre des photos peut-être parce que vous ne saurez pas dessiner si on vérifie là-bas, il y a des choses. Donc, le premier pas que Samuel va faire, nous allons y revenir en détail, c'est servir Dieu tout en portant les fautes. Vous ne pouvez pas vous engager dans la marche chrétienne, aussitôt que vous êtes né, si vous ne commencez pas par la base, les services. Il n'y a pas de développement pour un pays sans travail. Il n'y a pas de développement pour un étudiant sans travail. Vous ne pouvez pas être excellent au sommet. C'est le sommet que tout le monde voit même au loin. Mais à la base, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Servir Dieu tout en portant les fautes. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Vous avez bien commencé les choses. Mais il vous faut un homme appelé auprès de qui, à côté de qui vous devez travailler. Travaillez à côté d'un homme appelé. Et en travaillant à côté d'un homme appelé, vous observez. Vous voyez certains tics, certains, vous développez des réflexes. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il faut grandir. Et continuer à grandir malgré tout. Parce que vous serez dans un environnement tel que vous serez amené soit à vous dire, je suis déjà arrivé. Et que je dois finalement paraître, qu'on reconnaisse ce que je suis, ce que je sais faire. Mais il faut continuer à grandir. Et continuer à grandir. Grandir et continuer à grandir. Et vous avez grandi et tout ça. C'est à ce moment-là finalement qu'on se dit, bon, tout est fin prêt et tout ça. C'est là que finalement vous devez faire un autre pas. Être agréable à Dieu et aux hommes. Être agréable à Dieu et aux hommes. Et lorsqu'on est agréable à Dieu et aux hommes, finalement, tout le monde vous voit, vous êtes excellent, vous avez des félicitations. Après un message, après un exploit au travail, tout le monde vous donne des félicitations. Mais c'est là, finalement, que vous devez vous dire, ça ne s'est pas arrêté là. Vous devez chercher ce qui est rare. Travaillez sur ce qui est rare. Cherchez ce qui est rare. Et après avoir cherché ce qui est rare, tu te croiras peut-être au sommet déjà et tout. Tu te dis, je sais que tout le monde n'a pas. Mais c'est là finalement qu'il vous faut apprendre d'un père spirituel. Pour encadrer ce que vous avez trouvé de rare là, il vous faut, peut-être qu'il ne trouvera pas comme vous, mais son apport sera essentiel. Vous avez appris de votre père spirituel. Finalement, il y aura des choses que vous allez recevoir, de ce qui est rare que lui ne recevra pas. Mais vous devez travailler dans la transparence avec lui. Être vrai devant lui. Être transparent. Il n'y a pas de choses à cacher. Et quand vous avez gravi ces 7 étapes, finalement, votre don peut être reconnu. C'est pourquoi j'aime les assemblées de Dieu. On ne nomme pas des pasteurs, mais on reconnaît les ministères. On ne reconnaît pas ceux qui n'ont pas fait ce chemin ici. C'est après avoir fait ce chemin qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose dans vous, qu'il y a quelque chose que vous pouvez donner aux autres. Donc, ce schéma ici, vous pouvez l'adapter dans n'importe quel domaine. Je vous l'ai donné gratuitement sans payer. Servir Dieu tout en portant les fautes, travailler à côté d'un homme appelé, grandir et continuer à grandir malgré tout, être agréable à Dieu et aux hommes, rechercher ce qui est rare, apprendre de son père spirituel, être vrai devant son père spirituel. Appel ou don reconnu par tous. Voyons ce matin la première étape. Commençons à voir ce matin la première étape. Servir Dieu tout en portant les fautes. Servir Dieu tout en portant les fautes. Lisons dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, du 11e au 18e verset. 1 Samuel chapitre 2, du 11e au 18e verset. Nous sommes au niveau où Samuel a prié, pardon, Anne a prié, et Dieu lui a donné Samuel. L'enfant a fait quelques années, et il a été sévré, et on l'a amené dans la maison de l'Éternel à Silo. Et c'est là que l'histoire commence. C'est là que le processus de maturation commence pour cet homme. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 11 au verset 18. La Bible dit, « Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. » Il y a remise et reprise qui vient de se créer. Elkana, le père biologique, vient de céder l'enfant au père spirituel. Vous comprenez? Suivez très bien. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite. » C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait les services devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. À partir du verset 14, la Bible dit que la manière d'agir des enfants d'Élie était connue de tous ceux qui allaient offrir les sacrifices à Silo, y compris Anne aussi. Lorsque Anne et Elkana montaient à Silo, ils voyaient aussi tous ces mauvais comportements. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque tu es affecté à un poste, agis bien, parce que quelqu'un peut faire une prière contre toi. Je crois que c'est ce qui a poussé Anne finalement à orienter sa prière dans ce sens-là. Je vois qu'il y a un problème dans, dans la sacrificature. Je vois qu'il y a un problème dans les sacerdoces. Et ça les pousse à dire, Seigneur, ce que je vois là n'est pas bon. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Donc, si tu es affecté à la frontière, tu es affecté à la douane, tu es affecté à l'impôt, je ne sais pas moi où, agis bien. Parce que toi là, on te connaît comme étant... Wazola, c'est-à-dire toi, tu ne fais pas passer des dossiers dans la paix. Il faut toujours que quelqu'un vomisse. Ça, j'ai dit en français. Vous avez compris, Alina. Il faut que quelqu'un vomisse. S'il ne vomit pas, le dossier ne passera pas. C'est pourquoi certaines personnes, le jour où ils tombent, soit malades, les gens sont là, ils disent, « Mes chefs, accueilli. Il nous a fait ça, ces chefs-là. Sois bien, parce que tu ne sais pas quelle est Anne qui est quelque part, qui fera une prière pour que Balo Molayo. Agis bien. Tu n'es pas là pour pousser les gens à vomir au Kamolibi Tchopo, Kamolibu, Tanza, Tanza. Tu ne sais pas qui va faire une prière contre toi. Anne a prié, je suis sûr, en fonction de ce qu'elle avait vu à Silo. Amen. Alors, lorsque je lis ce texte, c'était une parenthèse, je la referme. Lorsque j'ai lu ce texte, nous l'avons lu ensemble avec vous, la question que je me pose est celle-ci. Quand Dieu, parce que nous avons vu Samuel est déposé par Elkanah dans la maison de l'Éternel, et aussitôt déposé, il se lance dans le service de Dieu. Mais il trouve dans la même maison des gaillards qui sont habitués à la perversité, à l'immoralité, à un comportement immoral. Et ils se retrouvent tous dans la même maison. Je pose la question de savoir, quand Dieu regarde sa maison à Silo, quelle image voit-il des gens qui y vivent? Quand Dieu regarde sa maison à Silo, quelle image voit-il des gens qui y vivent? Quand Dieu regarde sa maison de la mort matin dit ce matin, quelle image voit-il des gens qui se sont réunis ce matin? Quand Dieu regarde ceux qui sont à Bethel, quand Dieu regarde ceux qui sont à Crisco, quand Dieu regarde ceux qui sont par-ci, par-là, là où le culte est organisé, quelle image voit-il des gens qui y vivent, des gens qui fréquentent ces lieux? Quelle image voit-il des gens qui sont à Silo dans sa maison? Et c'est là que j'ai trouvé que lorsque Dieu regarde sa maison sur la terre, et lorsqu'il regardait sa maison à Silo, il voyait deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est le groupe de ceux qui servent Dieu. Aussitôt nés, aussitôt adoptés, ils servent. Et le deuxième groupe, ce ne sont pas ceux qui servent Dieu, mais c'est le groupe de ceux qui se servent de Dieu. Ce n'est pas le groupe de ceux qui servent Dieu, mais c'est le groupe de ceux qui se servent de Dieu. Lorsque les uns renoncent à leur vie, c'était un tout petit, ils renoncent à cette affection paternelle, ils renoncent à cette affection familiale, et ils sont poussés à être déposés à la maison de Dieu, là, à Silo. Ils renoncent à toute cette vie meilleure et tout, pour aller dans le sens de la volonté de Dieu, pour aller dans le sens de la direction de Dieu. Mais pendant ce temps, il y en a qui sont dans la même maison, qui, pour eux, être dans la maison de Dieu, c'est se servir de Dieu pour une vie meilleure. Quelle image Dieu voit-il quand il nous regarde ce matin? Que chacun de nous se pose donc la question de savoir, qu'est-ce que je suis venu faire dans la maison de Dieu? Nous sommes tous à Silo. Qu'est-ce que moi je suis venu faire dans la maison de Dieu? Pose la question à ton voisin, aie un air sérieux. Pose-moi la question. Tu sers Dieu ou tu te sers de Dieu? Sers-tu Dieu ou bien tu te sers de Dieu? Pose-lui la question. Oh, il y a un problème. Servir Dieu ou se servir de Dieu? C'est ça la plus grande question. Sers-tu Dieu ou bien tu te sers de Dieu? Car plusieurs dans la maison de Dieu se servent de Dieu en s'inscrivant dans la logique de fils d'Élie qui dit « Nous n'avons pas le temps de servir Dieu, nous avons seulement le temps pour la viande de Dieu. » C'est là le problème. Beaucoup sont dans la logique de fils d'Élie. Je n'ai pas le temps pour servir Dieu, mais j'ai le temps pour la viande de Dieu. Mon travail me réclame, mais lorsqu'on doit prier, lorsque ce travail connaît des soucis et qu'on annonce ici, il y a retraite annuelle, on va prier pour toutes sortes de cas. Mettez ça dans des enveloppes, vous allez les déposer dans les paniers quelque part, vous allez voir la même personne. 3 jours dira, matin, soir. Et quand il a ce qu'il voulait avoir, il va pour ne plus revenir. C'est là que beaucoup de gens dans l'église doivent subir des réformes de cœur. Nous ne venons pas à l'église pour nous servir de Dieu. Nous n'avons pas été adoptés pour nous servir de Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps pour ce Dieu. Vous avez lu ensemble avec moi. Le fils d'Élie ne connaissait point Dieu, mais il mangeait la viande de Dieu. Comment expliquer cela? Dans la maison de Dieu, vous vivez de la chaleur spirituelle de la maison de Dieu. Vous vivez des affections de Dieu. Mais vous, votre mission dans la maison de Dieu, c'est de vous servir de Dieu. Et la Bible les appelle ces sacrificateurs. Des sacrificateurs. Mais quel genre de sacrificateurs qui ne connaissent pas Dieu? Quel genre d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas le Dieu vers qui ils vont? C'est la viande de Dieu que nous voulons avoir. Nous n'avons pas le temps de servir Dieu. Nous avons seulement le temps pour sa viande. Nous n'avons pas le temps de servir Dieu. Mais nous avons seulement le temps pour les miracles de Dieu, pour le bonheur de Dieu, pour les merveilles de Dieu. Ils n'aiment pas servir Dieu, mais ils aiment la viande que Dieu donne dans sa maison. Ils aiment le travail que Dieu donne dans la maison. Ils aiment le mariage que Dieu donne. Ils aiment le succès que Dieu donne. Ils aiment la promotion que Dieu donne. Ils aiment l'élévation que Dieu donne. Mais ils ne veulent pas servir Dieu. Et pourtant, la richesse d'une nation, c'est sa population. D'abord, la première richesse, c'est d'abord sa population. Et quand nous regardons la population africaine et nous, congolaises, nous allons voir que la tranche qui a beaucoup plus de gens, c'est la jeunesse. Et je me suis posé la question, lorsque j'ai préparé ce message, c'était un enfant qui accédait dans ce service de Dieu. C'est comme un adopté, quelqu'un qui s'est converti à 20 ans, ou à 18 ans, ou à 16 ans. Mais il a devant lui quelque chose d'extraordinaire. Mais où est cette jeunesse aujourd'hui qui donne sa vie à Jésus à 18 ans, 19 ans? Normalement, ce sont des gens qui doivent faire des exploits demain après demain et avoir encore un grand avenir devant eux parce qu'il est différent. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui s'est converti à 65 ans et celui qui s'est converti à 18 ans. À 65 ans, d'après Moïse, c'est pas moi, d'après Moïse, il lui reste combien? 5 ans. Mais Dieu peut l'amener encore plus loin. Ça veut dire que son service ne durera que 5 ans. Et celui qui s'est converti à 18 ans, s'il doit mourir à 70 ans, il a combien d'années devant lui? Nous avons la jeunesse, mais quelle jeunesse? Pourrie dans la pornographie, pourrie dans la masturbation, pourrie dans toutes sortes de réalités, ne sachant pas que demain, la nation attend son cri. Et on ne veut pas travailler à la base, servir à la base. Ils n'aiment pas servir Dieu, mais ils aiment le travail que Dieu donne. Combien ne sont-ils pas venus à l'église parce qu'ils savent qu'à la borne, il y a possibilité de trouver un mariage. On ne se sert pas de Dieu. Les prédicateurs ou les pasteurs se servent de Dieu. Ils utilisent l'église pour son ventre. Les politiciens, quand ils veulent se servir de Dieu, ils savent que là-bas, je vais trouver la popularité. C'est mieux d'aller prier là-bas, parce que là, je vais trouver des gens. Celui qui veut sortir son album, il se dit, bon, je vais aller à la borne, parce que c'est le grand Liboulou. Donc là, je trouverai beaucoup plus de fans et tout, et tout. C'est se servir de Dieu. C'est se servir de Dieu. Et c'était ça la situation des enfants d'Élie. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils aiment porter les titres de la maison de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment les titres de Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos communautés aujourd'hui encore? Des gens qui accèdent par la corruption et par toutes sortes de manigances à certaines fonctions, juste pour assurer leur vie sociale. C'est de la bassesse. Quelqu'un qui vous dit, en tout cas pensez à moi prochainement, quand vous allez aménager tout ça, pour que j'aie quelque chose. Ça, c'est se servir de Dieu et non servir Dieu. Vous accédez à ce poste-là pour atteindre quel objectif, pour atteindre quel but? Que Dieu nous garde, que nous ne soyons pas dans la maison de Dieu pour se servir de lui. Et que nous n'ayons rien à voir avec lui. Mais si nous sommes dans la maison de Dieu, si nous avons été déposés à Silo, dans la maison de Dieu, c'est pour servir. C'est pour servir, ce n'est pas pour se servir. J'ai aimé un slogan que nous avions à l'époque, nous qui sommes d'Isaïe. Se servir, non. Tel égal, servir. Mais c'était juste un slogan. Lorsque finalement, ils ont commencé à se servir, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans les pays à la forme d'aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas servi. Les gens se sont servis. Et un pays dont la base de son développement est remplie d'une jeunesse qui se sert mais qui ne sert pas, n'a pas d'avenir. Vous n'avez pas d'avenir si la base de votre développement n'est pas le service, mais c'est laisser se servir. Notez ceci. Pour Samuel adopté, celui qui sait qu'il a un immeuble de 8 niveaux à construire, ne perdra pas son temps à chercher la viande aujourd'hui, sans poser les bases du service qui assure la même viande demain au sommet de la pyramide. Celui qui sait qu'il a un immeuble de 8 niveaux à construire, ne perdra pas son temps à chercher la viande aujourd'hui, sans poser les bases du service qui assure la même viande demain au sommet de la pyramide. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les gens aujourd'hui courent après le succès, l'on court après les miracles, l'on court après l'élévation et tout. Vous savez que dans ces pays, nous avons connu des gens qui n'ont pas fait d'exception à côté de la troisième des humanités, des deuxièmes secondaires à celle autodidacte, à un diplôme. Mais vous pensez que cette personne vous donnera quoi demain au sommet de l'État? C'est là le plus grand problème. Celui qui sait qu'il a un immeuble de 8 niveaux à construire ne perdra pas son temps, ne perdra pas son temps à chercher la viande aujourd'hui sans poser les bases du service qui assure la même viande demain au sommet de la pyramide. La même viande t'est assurée demain au sommet de la pyramide. Ne la mange pas aujourd'hui dans la précipitation. La même viande t'est gardée là au sommet de la pyramide. Travaille, lorsque tu vas la manger demain au sommet de la pyramide, tu la mangeras avec des équilibres. Samuel a réussi. Mais c'était aussi grâce à ses coachs, dont Elkanah et Anne. Il avait des coachs qui l'ont aidé à émerger, qui l'ont aidé à comprendre la logique des choses et sur quelle base il devait poser son pied. Et je suis en train de voir le jour où Samuel est déposé à la maison de Dieu à Silo. Et aussitôt qu'il s'est séparé de Elkanah, il fut sans tarder au service de l'Éternel. C'est du tic au tac, sans tarder. Il est déposé et il se met à servir Dieu. Mais vous êtes là, ça fait combien de temps adopté? Y a-t-il des adoptés en ce lieu? Levez la main, adopté. Posez-vous la question, vous qui êtes adopté dans la maison de Dieu, vous avez fait combien d'années sans tarder pour entrer directement dans le service de Dieu? Quand un adopté tarde à mettre son pied dans le service de Dieu, posons-nous la question s'il a réellement été adopté. Parce que le chemin est clair, Samuel nous le présente. Il est déposé par Elkanah et sans tarder, il met son pied dans le service. Il met son pied dans les services. Il est déposé à la maison de Dieu à Silo. Et aussitôt, il fit sans tarder au service de l'Éternel. On peut entendre ses parents lui dire, tu es dans cette maison, mais tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu es dans cette maison, la bonne matin, tu es dans cette maison, église, tu es dans cette maison, ne vis pas comme tout le monde, parce que toi tu n'es pas comme tout le monde. Tu as trouvé des gens dans la perversité, mais pourtant les titres de sacrificateur, ce n'est pas là les modèles. Je crois que sa mère et son père lui rappelaient tout le temps ces choses. Tu es dans la maison de Dieu, mais sois sage. Ne copie pas tout le monde ici. Ne sois pas comme tout le monde ici. Ne vis pas comme tout le monde ici. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas comme tout le monde. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsqu'il s'est préparé pour partir, il va leur dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes différents de ceux que vous avez trouvés ici. Je ne parle pas directement avec vous, mais n'oubliez pas, vous êtes lumière du monde. Vous êtes celle de la terre. Tout le monde n'est pas à copier dans la maison de Dieu. Ne copie pas tout le monde. Ne copie pas tout le monde. Ne t'attache pas à tout le monde. Ne t'attache pas au fils Néli. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils viennent pour la viande de Dieu. Mais rien à voir avec Dieu. Tu étais venu bien. Tu étais venu en ce lieu. Otomara Moudouté, Maman Batou. Mais depuis que tu es venu, tu t'es allié à cette femme, la fille d'Eli. Dans la perversité. Et elle t'a contaminé. Et pourtant tu as oublié que tu as 8 niveaux à construire. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas venu avec le même objectif que tout le monde. Chacun dans la maison de Dieu travaille en fonction des niveaux de son immeuble. Je connais, je sais d'où je vais, je connais les parcours que Dieu a tracés pour moi. C'est pourquoi je ne vais pas aller ça et là, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je me concentre sur les 8 niveaux. Je sers. Je travaille à côté d'un homme appelé. J'ai grandi et je continue à grandir. Je suis agréable à Dieu et aux hommes. Je cherche ce qui est rare. Mais aussi et surtout, j'apprends du serviteur, du père spirituel. Et je fonce, je suis dans la transparence pour atteindre le sommet. Voilà le parcours qu'il faut faire. Car les fils d'Élie sont partout. Dans la maison de Dieu quand même à Silo. Ils sont là. Et ils ont détruit plusieurs vies. Ils ont détruit plusieurs immeubles. Il y a des immeubles qui devaient déjà être achevés, mais retardés depuis le jour où tu t'es allié à cet homme-là. Depuis le jour où tu as rencontré cette femme-là, la construction s'est arrêtée. Aujourd'hui, tu dois reprendre les travaux. Aujourd'hui, il faut que tu reprennes les travaux. Parce que Dieu ne t'attend pas à ça. Tu dois aller plus loin. Tu dois monter encore et foncer encore. Les fils d'Élie sont à Silo, n'oubliez pas ça. Ils sont à Silo pour égarer, ils sont à Silo pour détruire, ils sont à Silo pour faire autre chose. Mais toujours dans la maison de Dieu. Tu n'es pas dans la maison, tu ne dois pas vivre. Tu es dans cette maison, mais tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Chacun vit en fonction des niveaux de son immeuble en construction. Tu vis en fonction de quoi? Tu vis en fonction de quelle perspective? Jeunesse, tu vis en fonction de quelle perspective? Serviteur de Dieu, tu vis en fonction de quelle perspective? Patron d'entreprise, tu vis en fonction de quelle perspective? Je ne sais pas, élève, étudiant, tu vis en fonction de quelle perspective? Papa, maman, père de foyer, mère au foyer, tu vis en fonction de quelle perspective? Il y a des niveaux à bâtir, mais ce niveau-là doit être bâti en fonction de la connaissance que tu as. De ce que Dieu t'a dit, mais aussi faire très attention, car les fils d'Élie sont là. Les fils d'Élie, ils n'ont pas de honte pour t'inscrire dans leur école, pour t'inscrire dans leur logique, d'ailleurs, et ils aiment ça. Quand nous devenons nombreux, ça veut dire que nous authentifions la procédure aussi. Vous ne voyez pas que c'est tout le monde qui fait ça? Tu ne vois pas que dans cette église, tout ça, on a beaucoup exagéré avec la prière. Tout le temps, venez prier, tout le temps, venez prier, et tout ça. Vous ne voyez pas que vous en faites un peu trop? J'ai pu bien prier chez moi à la maison, et Dieu va m'écouter. Vous trouverez ce fils d'Élie dans les départements, ils sont dedans. Et dans l'église, ils sont dedans. Les mercredis, les fils d'Élie ne viendront pas ici. Les fils d'Élie vous diront, je vais travailler, je vais chercher l'argent. Mais le jour où on dira, il y a tout ça, un programme spirituel à la bonne matinée, thème, septième bombardement prophétique pour une église qui prospère. Voilà, il y a le match à Nastad. La viande de l'éternel. On aime plus la viande de Dieu et on se sert de Dieu, mais on ne veut pas servir Dieu. Samuel, Anne, tout comme Elkanah, les coachs de Samuel peuvent lui dire, tu es dans cette maison pour servir Dieu et non te battre pour la viande. Tu es dans cette maison pour servir Dieu, mais tu n'es pas ici pour te battre pour la viande. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un, vous n'avez pas encore, il est venu, bon, peut-être il a commencé à travailler ou bien il veut commencer à travailler. Quand quelqu'un donne plus l'attention à l'argent, il est fils d'Élie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il ne connaît pas, soit il n'a rien à voir avec le développement, le progrès. Lui, c'est sa coopération et puis c'est tout. Tu es dans cette maison pour servir Dieu. Amen. Nous sommes dans cette maison pour servir Dieu. Je suis dans cette maison pour servir Dieu. C'est Dieu qui s'occupera des conditions. C'est Dieu qui s'occupera, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Mais je ne conditionne pas mon service par la viande. Je ne conditionne pas la prédication par la viande. Non. Je ne viens pas ici, je vais servir dans tel département parce que là je serai visible. Non. Je vais être dans tel programme parce que là je vais être visible. Non. Caméraman, je vois que tu vas prier là-bas. Et puis on prend une belle position. On ne se sert pas de Dieu. Ceux qui se servent de Dieu, allez poser la question au fils d'Élie. Ils savent les conséquences. Vous ne pouvez pas vous servir de Dieu. Les conséquences sont fâcheuses, c'est la mort. C'était la mort pour ces deux fils d'Élie. Ils n'avaient pas compris que dans la maison de Dieu, on vient pour servir. Celui qui sert vit, et même il vieillit. Il est entré tout jeune, il vous a trouvé des vieux dans cette maison. Parce que pour Amna, ils avaient déjà des enfants. Parce qu'à la mort de l'un, sa femme était grosse. Donc c'était des adultes. Mais c'était un petit qui vient et qui trouve des âgés, des grands. Et ces grands-là meurent et les petits grandissent jusqu'à devenir un vieillard. Le secret, c'est dans les services. Le secret, c'est dans le travail. Travaille pour Dieu. Sers Dieu. Et Dieu t'élèvera. Dieu t'honorera. Dieu te donnera du succès. Ce n'est pas à toi de courir après les avantages. Laisse Dieu lui-même constater que cet enfant me sert, mais je lui ajoute quelque chose pour bien me servir. Dieu va changer les conditions. Dieu améliore les conditions de travail. Mais avant qu'il améliore, toi travaille d'abord. Ne cherche pas l'amélioration si tu n'as pas encore commencé à travailler. C'est pourquoi je voudrais encourager un jeune homme qui est entré à Silo ce matin. Tout jeune, tu es entré dans la foi, tu es entré dans le ministère tout jeune. Et tu as trouvé devant toi des gaillards, des grands qui te disent, petit, nous là, on a commencé le ministère, ça fait très longtemps. Depuis les Zaïre, Tobana Makambo. Donc ce n'est pas à toi de nous apprendre quoi que ce soit. Mais sous vos yeux, vous allez voir ce petit homme, ce petit garçon-là, vous dépasser. Vous resterez sur les bancs, il passera, il va prêcher. Vous resterez sur les bancs, il passera et il va modérer. Mais vous, vous êtes resté sur place comme un secrétaire général. On change tout le monde sauf toi. Ministre accueilli au Tigali. Donc tu accueilles tous les ministres qui viennent. Tu es toujours là. Attends, tu vas voir. Le tout petit, il passera. Et demain, tu vas l'appeler Thomas. Tu es dans cette maison pour servir Dieu et non te battre pour la viande. Ne te bats pas pour la viande. Ne t'inquiète pas, notez ceci. Ne t'inquiète pas pour la viande que tu n'as pas aujourd'hui, car tu en deviendras le distributeur demain. Ne t'inquiète pas pour la viande que tu n'as pas aujourd'hui, car tu en deviendras distributeur demain. Voyons ce que Samuel était devenu. 1 Samuel 9. Il est entré et il a vu les grands enfants d'Élie en train de fabriquer même la fourchette à trois dents pour piquer dans les pots, dans les chaudrons, dans la marmite et tout ça. Et il observait. Alors que les uns vont dans le sens de la viande, lui il s'est dit, moi je vais servir Dieu. Il y aura toujours une différence. Dans la même maison, les uns se servent de Dieu et l'autre sert Dieu, vous ne ferez pas match nul. Vous ne grandirez pas de la même manière. À la fin, au sommet de la pyramide, vous ne terminerez pas votre course de la même manière. Il y aura toujours une différence. Et nous sommes les témoins de cette différence. Nous sommes entrés en ce lieu tout jeunes, tout petits, sans avenir. On savait que Dieu était avec nous. Mais la seule chose la plus importante pour nous, c'était de servir Dieu. Ne pas regarder aux hommes, ne pas regarder à ceux qui avaient quelque chose et tout ça. Non, mais on s'est dit, je suis venu chercher, même affamé. Des fois, maman Tichimo nous disait, milliers d'années après retraite, parce qu'on ne sait pas à la maison si tu vas manger. Mais c'était un processus dans cette pyramide. Il fallait passer par là, servir. Parce que la viande t'attend au sommet. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Celui qui n'avait pas la viande, écoutez comment il donne des ordres ici. 1 Samuel 9, verset 22 au verset 24. Vous êtes là? Nous pouvons lire ensemble. Samuel prit Saoul et son serviteur. Les filles entrent où? Il y aura une salle. Tu vas commencer à donner des ordres. Il prend Saoul et son serviteur. Les filles entrent dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes, les petits d'hier. Hein? Samuel dit à qui? Au cuisinier. Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il a servi à Saoul.
Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Celui qui jette les bases du service aujourd'hui, qui ne travaille pas pour la viande aujourd'hui, demain il retrouve la même viande. Et celui qui peut organiser les choses, donne tel morceau à tel, donne tel autre morceau à telle autre personne. Ne sois pas pressé pour manger la viande aujourd'hui. La même viande t'attend au sommet de la pyramide. Pourquoi tu es pressé de manger tout de suite là? Attends, oui. Ne sois pas pressé, attends. La viande est réservée pour celui qui a fait le processus de maturation jusqu'au sommet. C'est Samuel qui peut organiser une salle. C'est Samuel qui peut inviter Saoul et lui donner l'épaule. Et pourtant hier, c'était Paul, il voyait de ses propres yeux comment le fils d'Élie était en train de piquer dessus avec la fourchette à trois dents. Mais il a attendu le temps. Il a attendu le moment qu'il fallait. Il a suivi les processus, servir, travailler, grandir, et ainsi de suite. Et c'est là au sommet, finalement, que vous allez voir que cet homme est reconnu comme prophète en Israël. Que chacun de nous prenne conscience. Si nous voulons être utile à cette œuvre, être utile à notre société, être utile pour nos frères, nous n'avons qu'un seul schéma, servir à la base et monter ainsi de suite pour atteindre le sommet. Courbons nos têtes dans la prière. Car Dieu a promis une viande pour son serviteur. Dieu a promis une viande. Et il ne peut pas servir à la base, travailler, monter jusqu'au septième niveau, sans accéder à la viande que Dieu a promise. Prions que Dieu ouvre la porte de cette viande. Que Dieu libère par sa volonté cette viande. Que Dieu donne à son serviteur de posséder cette promesse, de posséder les plans de Dieu, de posséder ce que Dieu a décidé pour lui. Oui, c'est possible qu'un homme qui est passé par ce processus, alors qu'il a atteint le niveau final, qu'il soit reconnu dans ce que Dieu a dit, qu'il soit reconnu dans ce que Dieu a décidé, qu'il soit reconnu dans les plans de Dieu, qu'il soit reconnu dans les programmes de Dieu, qu'il soit reconnu dans les projets de Dieu, qu'il soit reconnu. Les hommes étouffent, les hommes font tout ce qu'ils peuvent faire, mais celui qui a gravé tous ces échelons, il sera reconnu au sommet. Seigneur, souviens-toi de ton instrument, ton serviteur. Jésus, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, laisse-le qu'il arrive au sommet, que tu le fasses marcher sur les lieux élevés et qu'il monte au sommet. Merci Jésus, au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse.